Moi, c'est André de Mbujima, au Kassai Oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole dans ce nouveau numéro des paroles aux auditeurs. Presque une semaine après la mise en œuvre des mesures contre la propagation des Covid-19 en RD Congo, plusieurs analystes demandent aux autorités de prendre des mesures stratégiques afin de réduire les effets du Covid-19 sur l'économie nationale et sur le vécu quotidien de la population en cette période de crise sanitaire. Certains analystes donc estiment qu'à côté de la task force sanitaire instituée au sein du cabinet présidentiel pour la riposte contre les coronavirus, il est salutaire pour le président de la République de rendre opérationnelle une task force économique et sociale. Qu'en pensez-vous et que proposez-vous comme mesure stratégique afin d'atténuer effectivement l'impact négatif sur l'économie nationale? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 09 97 06 63 30 ou encore au 09 97 06 49 69 pour votre intervention en direct. Vous êtes plus de 10 000 à avoir été touchés par ce sujet. 300 personnes, vous l'avez commenté et 45, vous l'avez partagé. Merci de l'intérêt que vous accordez à nos différents débats. Mimi Kindou assure la mise en onde de cette émission réalisée par Tatima Poukou, J.R. Lugembo, Luabung Anji. Coordonne et présente cette émission. Bienvenue à tous.
Découvrez les modèles et les talents congolais dans le magazine Étoile. Des hommes et des femmes au parcours exceptionnel. Trouvez une source d'inspiration à travers ces personnes connues et ces citoyens lambda sur Radio Okapi. Étoile, de la découverte à l'inspiration. Radio Okapi vous propose des hommes et des femmes d'exception. Suivez-les dans le magazine Étoile tout le samedi à 14h05 et 19h05, puis en rediffusion le lundi à 15h30, heure de Kinshasa.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Monsieur Jean-Louis Kayembe, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez, au niveau de la Banque Centrale, publié un communiqué annonçant des mesures pour atténuer l'impact négatif sur l'économie nationale. Est-ce que vous pouvez nous donner la quintessence de ces communiqués, de ces mesures?
Oui, merci beaucoup, monsieur J.R. Donc, comme vous le savez, l'économie mondiale fait face à un choc lié donc à cette crise sanitaire. Et comme vous savez, les économies étant interdépendantes, et notre économie qui dépend également de l'extérieur, nous avons nous faisons également face à cette situation. En gros, pour notre banque centrale, comme toutes les banques centrales, nous avons réagi en ce qui nous concerne pour essayer d'atténuer tant soit peu l'impact négatif de ces mesures sur l'économie nationale. Ainsi donc, les communiqués qui est sorti essaye de lister un certain nombre de mesures de riposte qui ont été prises par l'autorité monétaire pour atténuer donc des effets dont je parlais ici. Comme vous le savez, les circuits par lesquels nous sommes affectés, tous les pays sont affectés, c'est d'abord le commerce qui a baissé, le commerce international, le commerce mondial, et la demande mondiale qui a baissé, les coûts de matières premières également qui sont affectés négativement. Comme vous le savez, le pétrole a baissé sensiblement et les autres produits, et notamment les cuivres, le cobalt, leurs cours sont également affectés. Et donc cela nous affecte aussi en termes donc de croissance économique, en termes de balance de paiement, en termes de finances publiques, et donc tous les indicateurs pratiquement seront affectés. Donc pour faire même les systèmes bancaires. Alors en riposte à cela, le gouverneur de la Banque centrale a donc sorti un train de mesures qui porte d'abord, premièrement, sur les taux directeurs de la Banque centrale. Comme vous le savez, c'est les taux de référence, ces taux qui étaient à 9% et devraient donc passer à 7,5%. Le taux directeur est donc, et cette révision est intervenue dans les soucis de réduire les coûts de crédit au sein de l'économie, au regard donc de la cascade des taux. Une autre mesure, c'est en fait la mise en place d'un guichet de refinancement de maturité de 3 à 24 mois, à l'effet d'augmenter les ressources de banque afin de leur permettre d'accroître les financements de l'économie. Et ensuite, nous avons revu à la baisse les coefficients de la réserve obligatoire sur le dépôt en monnaie nationale qui est passé de 2 à 0%, bien sûr, dans les soucis de libérer la liquidité au profit des banques. Et autre mesure, c'est en fait, nous avons reporté l'entrée en vigueur de certaines dispositions, notamment celles relatives au relèvement du niveau de capital minimum des banques, parce que nous étions, cette année, le niveau de capital était se situe autour de 30 millions, et l'obligation a été faite aux banques pour que en 2021 déjà que les banques puissent passer à 50 millions. Donc cette instruction a été postposée et jusqu'en janvier 2022. Oui. Nous avons également gelé certaines règles de classification des prêts pour permettre aux banques de renégocier les échéances de remboursement de leur clientèle. Du fait que la clientèle frappée par la crise, par toutes les mesures de fermeture notamment, serait en difficulté pour honorer certains engagements vis-à-vis de leurs banquiers. Et donc, nous avons demandé aux banques de négocier les reports des échéances et de ne pas pénaliser le retard de remboursement de crédit. Ainsi donc, par ailleurs, la Banque centrale a assuré la population de l'approvisionnement des banques en billets des banques de bonne qualité et en quantité suffisante pour permettre le bon fonctionnement du système bancaire, c'est-à-dire des guichets de banque. Donc, il n'y a pas de panique, il n'y aura pas pénurie des billets de banque. La Banque centrale va continuer à alimenter, à provisionner les banques pour que la clientèle soit servie comme il se doit. Et également, la Banque centrale a pris des mesures pour préserver la stabilité du cadre macroéconomique, à savoir maintenir la stabilité de taux de change et celle des prix des biens et services. Voilà.
Alors, en termes clairs, quel peut être l'impact de ces mesures sur le vécu quotidien pendant cette période?
Sur le vécu quotidien, pendant cette période, parce que vous savez que la population est d'abord affectée par la hausse des prix et la dépréciation de taux de change. Donc, la première mesure, c'est continuer cette dépréciation de taux de change. On sait que vu l'ampleur de la crise, les équilibres au niveau macroéconomique seront perturbés et que c'est la perte des équilibres, donc cette perturbation devrait avoir impérativement un impact sur la hausse des prix et le taux de change, sur les prix et le taux de change. Mais l'essentiel pour la Banque centrale, c'est d'atténuer cet impact. Autant que faire se peut, essayer de réduire au maximum cet impact négatif. Donc, préserver le pouvoir d'achat de la population en stabilisant les prix ou en contenant l'expansion ou la progression des prix. Nous ne disons pas que les prix ne vont pas augmenter, mais contenir cette augmentation des prix dans des proportions acceptables. Et également, il y va du taux de change. Donc, le taux directeur, la réserve obligatoire et les interventions qui sont programmées sous le marché de change auront comme impact de préserver la stabilité du taux de change et atténuer l'accélération, le rythme d'accélération des prix.
Alors, ceux qui redoutent qu'il y ait effectivement un impact positif sur le vécu quotidien, est-ce que vous leur donnez raison lorsqu'ils estiment que la Banque centrale qui avait publié tout récemment un communiqué annonçant effectivement la baisse sensible des réserves en devises, est-ce que ça ne risque pas de compliquer davantage la situation?
Oui, comme vous le savez, je dis que nous allons essayer d'atténuer. C'est-à-dire que nous avions, bien sûr, il y a quelques temps, nous avons annoncé que nous avions un appui à la balance des paiements et dans le cadre du programme à des références qui est exécuté par le gouvernement. Donc, ce programme, dans le cadre de ce programme de référence, la Banque centrale ou le gouvernement a bénéficié d'un appui à la balance des paiements sous forme de facilités rapides de crédit. Et c'était d'un montant de 368 millions. Donc, ce montant a permis de conforter les niveaux de réserve de la Banque centrale parce que ces niveaux étaient déjà trop bas. Mmh. Donc, avec cet appui, nous sommes à même de nous avoir amélioré notre couverture d'importation de biens et services et nous sommes à même de pouvoir intervenir sur le marché de change pour atténuer ce choc-là. Mmh.
Donc vous n'allez pas recourir à la planche à billets.
Non, le problème c'est que bien sûr, dans un contexte comme celui-ci, tous les pays vont utiliser pour stabiliser, pour soutenir l'économie, tous les pays vont utiliser la politique budgétaire. Donc vont absolument augmenter les niveaux de dépenses. Et pour ce faire, s'il y a déficit, bien sûr, nous allons essayer de voir comment financer de manière saine ce déficit, c'est-à-dire en émettant des titres de bons du trésor, ou, à la limite, si nous recourons au financement monétaire, nous allons voir comment, s'il y aura injection de liquidité, comment atténuer l'impact de cette injection de liquidité sur l'économie. Donc, nous avons des instruments, notamment, je vous ai parlé de la réserve obligatoire, je vous ai parlé également de bons BCC. Nous allons essayer, lorsque nous faisons le financement monétaire, comme on l'a toujours fait par le passé, nous allons émettre des titres de bons du trésor pour acheter cette liquidité auprès des banques de manière à atténuer l'impact de cette injection de liquidité sur le marché des biens.
Voilà, nous vous gardons en ligne, M. Jean-Louis Kayembe. Nous rappelons que vous êtes le directeur des opérations à la Banque centrale et également le président du comité de suivi de la bancarisation. Nous reviendrons à vous le temps d'ouvrir les standards et d'accueillir les auditeurs qui souhaitent intervenir dans cette émission. Sylvain Tabounia, Olivier Akikuit, 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969 pour votre intervention en direct.
Magazine des Nations Unies. Les magazines des Nations Unies, tout sur les faits saillants des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 8h30, 19h05 et en rediffusion mercredi à 14h15.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Sylvain, vous êtes à Bounia, bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre réaction après avoir écouté notre invité?
Bien, je voudrais saluer l'expert Kayembe. Il a pratiquement soulevé les aspects essentiels qui se situent à l'intérieur de notre économie. Le problème qui se pose, c'est par rapport à la question que vous avez soulevée. C'est le défi quotidien de la population par rapport à ce fléau du coronavirus. La réflexion qui doit être faite aujourd'hui, c'est de mesurer l'impact socio-économique sur le panier de la ménagère. Je dois ici dire et prendre des concepts. Il faut d'abord comprendre que notre pays est divisé dans plusieurs régions économiques. La réalité physique, disons, que développe M. Kayembe, est une réalité interne à notre économie, puisque lorsqu'il parle des mesures prises par la Banque centrale, et même très bien, il a évoqué l'intervention budgétaire, je suis d'accord avec lui, puisqu'effectivement, à ce moment précis, il faut aller très rapidement à la correction de notre budget. Ça veut dire l'essentiel de la vie des Congolais doit être pris en compte au-delà des dépenses budgétaires prévues pour cette année 2020. Et donc, lorsque vous prenez par exemple la province de l'Ituri, avec ces deux territoires voisins à l'Ouganda, je cite le territoire d'Arou, le territoire de Mahagi, c'est autant pour d'autres provinces telles que le nord de Sud-Kivu qui sont en contact avec les Rwanda et le Burundi. Et comme vous le savez, avec l'extraversion de notre économie, la plupart de nos transactions dépendent de ces économies-là, puisque notre pays ne produit pas. Je l'ai toujours rappelé dans cette émission lorsque nous échangeons sur des questions économiques, c'est que le centre d'approvisionnement de nos populations dépend des économies d'autres pays. C'est le cas des Chinois en Ituri, où c'est l'Ouganda qui est le centre de notre approvisionnement. Maintenant, comment est-ce que nous allons nous apprendre par rapport à cette situation? L'invité a soulevé la question de la hausse des prix, c'était normal. N'oubliez pas que la mesure prise par les chefs de l'État que nous tous nous saluons a des répercussions sur les transactions commerciales. Les opérateurs économiques qui rendent les services aux consommateurs importent les marchandises de l'Ouganda. Lorsqu'il y a fermeture des frontières, eh bien, les stocks qu'ils ont, les stocks qui servent à desservir la population, peuvent arriver à la fin, et même si on doit rapidement passer au stock de sécurité qui doit, d'une manière ou d'une autre, pallier au problème de la consommation de la population, mais à un moment donné, on va se rendre compte que nous tombons dans la pénurie. Et cela pose un problème de consommation, puisque si le budget n'est pas corrigé, après la fin qu'on ne puisse pas augmenter le salaire des Congolais, puisque lorsque les prix augmentent, il ne faut pas oublier la loi de l'offre et de la demande qui s'applique à toutes circonstances. Tout ça reste égal par ailleurs. Lorsque les prix montent, il faut que la population puisse être capable de s'approvisionner. Et dans des économies modernes aujourd'hui, on doit augmenter les salaires des consommateurs. Ce qui n'est pas le cas avec nous.
Oui, mais c'est ce que nous avons tous suivi aux États-Unis. Le président américain a pensé aux ménages, en accordant à chaque ménage 1 000 $ et par enfant 500 $. Et en France, on a vu le président annoncer qu'ils doivent récapitaliser certaines entreprises.
Puisque notre pays n'a jamais eu une politique d'anticipation, je vais vous donner le cas du Kenya, où le pays a des réserves à stock de matières. Ça veut dire les matières de première nécessité, les haricots, le maïs, le manioc. Lorsqu'il y a des crises pareilles, à principe, l'État procède à une prise en charge d'une partie des consommations de la population. Si je pose la question à l'invité et à tous ceux qui vont intervenir à cette émission, là, notre pays est par terre. Puisque nous ne saurons pas donner la chance aux Congolais de consommer comme d'habitude. N'oubliez pas qu'on a restreint le niveau de circulation, le niveau de transaction de notre population. Ce sont les bars qui nous produisent, ce sont les marchés qui nous produisent, et lorsque on restreint les capacités de production, eh bien notre population est en danger.
Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Sylvain. On va accueillir également Olivier qui est à Kikwit. Olivier, bonjour. Olivier, vous êtes avec nous?
Je suis là.
Vous avez la parole, Olivier.
Ok, voilà. Vous voyez, mon prédécesseur a dit beaucoup de choses, et je pars de là, parce qu'effectivement, les difficultés d'aider la population, les difficultés d'approvisionner la population en bien de première nécessité, c'est ça qui va compliquer le plan de confinement. Ça, on doit en être sûr, parce que les gens sont obligés de sortir tous les jours pour aller chercher qui le pondou, qui le je ne sais quoi. Donc, ça c'est une difficulté et c'est parce que nous n'avons pas été prévoyants. Donc, les stocks qu'on appelle stocks stratégiques, nous n'en avons pas. Alors, j'ai deux préoccupations. La première pour la Banque centrale. Je ne sais pas pourquoi nous sommes toujours en retard par rapport aux autres. Vous voyez, la Réserve fédérale aux États-Unis a descendu le taux directeur à 0%. 0%. Chez nous, on descend à 7%. Alors qu'en temps normal, déjà dans les pays développés, dans les pays européens, on est entre 0 et 2. Les pays les plus, ceux qui ne savent pas faire ce qu'ils doivent faire, ils sont à 1, à 1,5, à 2. Mais on ne dépasse pas 2. Nous sommes au-delà de 10 et en situation de crise, on descend à 7. C'est toujours une catastrophe pour les opérateurs économiques. Et donc, on ne peut pas dire qu'on a soulagé la souffrance ou la misère de la population. Ça, c'est une première chose. Alors, la deuxième chose que j'attends du gouvernement, ce sont les mesures de soutien aux entreprises et à la population. Mesures de soutien, c'est par exemple voir la fiscalité. Déjà, dans d'autres pays, c'est ça la première chose qu'on a annoncée on va rabaisser la fiscalité, on va même reporter les impôts dans plusieurs entreprises, dans plusieurs pays. Alors, du côté de la population, si je prends le travail que la fonction publique a fait il y a quelques temps, les hyper qu'on a découpés au salaire déjà minable, normalement, en situation comme celle-ci, on devait dire, bon voilà, ce mois-ci, pas de retrait des hyper. Ça, ça devait déjà soulager un tant soit peu la population. Mais, JR, je ne sais pas, qu'est-ce que nous pensons? On vous dit, confinez-vous. Nous allons nous confiner et le salaire de misère va arriver. Et qu'est-ce que ça va donner? Donc, je crois que...
Parce que dans le confinement, la consommation en termes de l'électricité, de l'eau, ça va augmenter, sûrement. Et aussi, oui. En termes de la prise en charge même des enfants qui sont à la maison.
Oui, mais maintenant que tout le monde est à la maison, JR, vous vous rendez compte, ça devient très compliqué. Donc, la consommation à la maison augmente, alors que les revenus ne font que diminuer. Et comme l'approvisionnement sur les marchés aussi pose problème, donc nous avons, vous allez au marché, vous ne voyez pas les quantités que vous voyez d'habitude, parce que les commerçants aussi ont des difficultés pour se déplacer. Donc, si l'État, évidemment, et nous le savons, l'État, notre État, nous le connaissons, les villages, moi je vous ai dit la semaine passée que je revenais d'un village à quelques kilomètres, mais les gens sont dépassés, et la production agricole dans certains villages a sérieusement diminué, pas parce que l'État est ce qu'il est, les routes n'existent pas, mais vous voulez que les gens fassent quoi? Et l'État va être, je crois, dépassé. Nous tous, on sera dépassé. Donc, je suis vraiment désolé.
Merci
la
beaucoup.
Banque n'a pas fait assez. Et le gouvernement ne s'est pas encore prononcé sur les mesures qu'il doit prendre. Donc, je crois que là aussi,
Et vous proposez quoi concrètement?
Non. Moi, je dis, les mesures concrètes, quand on vous dit, voilà, nous, ce mois-ci, il n'y a pas d'hyper. Ça, c'est une bonne chose. On dit...
Rabaisser voilà, la fiscalité, reporter l'impôt.
Les entreprises ne payent pas d'impôt. Ça, c'est un soulagement. Mais tant qu'on n'en parle pas, les entreprises, moi, si j'en parle, c'est parce que je vous dis que les fonctionnaires, les gens de la DGI, ils vont continuer à embêter les gens à cette fin du mois.
Maintenant, la régie des eaux va couper de l'eau et puis l'électricité va... on va couper si vous ne payez pas. C'est...
Oui, mais c'est ça, justement. Alors qu'on doit, justement... Ici, on a parlé de renégocier les échéances des emprunts. Je suis tout à fait d'accord, ça, c'est une bonne mesure. Mais qui va décider? Celui qui a emprunté ou bien le banquier? Parce que le banquier lui dit, écoutez, vous dit, j'ai besoin de mon argent. Et vous venez, vous dites, non, compte tenu de ceci, veuillez reporter au mois prochain. Mais la justice va peut-être nous aider.
Merci beaucoup.
Ce n'est qu'une théorie et il faudrait que la banque nous donne, il faut qu'il y ait des mesures d'encadrement pour qu'on sache que si on ne paye pas à l'échéance, on est couvert par un texte. Donc c'est ça.
Merci beaucoup, Olivier.
La banque n'a pas fait assez et le gouvernement n'a pas encore fait ce qu'il doit faire.
Merci beaucoup, Olivier, d'avoir appelé des Kikwits. Jean-Claude, vous êtes à Kindu. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs. Jean-Claude, vous êtes avec nous? Voilà, on a des petits soucis. Mais voilà, Jean-Claude, vous avez la parole. Est-ce que vous pensez, comme votre prédécesseur, que le gouvernement n'a pas encore fait assez et les mesures prises par la BCC ne pourraient pas avoir un impact sur les ménages?
Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec mes prédécesseurs. Laisse-moi d'abord partir du principe selon lequel problèmes globaux des solutions globales.
Voilà, on a des petits soucis avec vous, Jean-Claude. Ben désolé, il n'est plus en ligne. Le temps peut-être de retrouver d'autres auditeurs qui nous ont rejoints. Il y a Jean-Louis qui nous a également rejoints. Il est avec nous. Jean-Louis Bika, vous êtes avec nous? Jean-Louis Bissanguilois.
Oui.
Wally.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour. Quelle est votre réaction, Jean-Louis?
Bonjour, Gilles. Comment vous allez?
Très bien, merci. Alors, quelle est votre réaction?
Bon, moi j'ai suivi légèrement l'invité. C'est vrai que les trains de mesures qui ont été prises, ce sont des mesures essentiellement des politiques monétaires. Et or, dans ce genre de crise, il faut coupler des questions de politique monétaire et des politiques budgétaires. Mais bon, ce sont des mesures conjoncturelles à très court terme pour faire face au choc exogène qui est le choc sanitaire qui a des implications sur le plan économique. Mmh. Bon, moi j'ai toujours proposé, je continue à proposer que il faudrait nécessairement, au-delà des aspects conjoncturels, des courts termes, que nous puissions développer les aspects structurels aussi. Parce que chaque fois qu'une économie réagit toujours à des problèmes de court terme, on ne sait pas parler du développement. J'ai appris que le chef de l'État va mettre en place une task force économique et sociale. C'est dans cette task force qu'on devrait absolument, à la fois, on prend des mesures conjoncturelles et nous devons nous lancer. Il est plus que temps, moi je l'ai dit et je répète encore, que le coronavirus, au-delà d'être une menace pour l'économie mondiale, peut être une opportunité pour les économies sous-développées qui sont des économies extraverties, pour repenser ces économies et mettre en place des leviers d'une croissance endogène, une croissance dont les principaux paramètres devraient ressortir dans l'économie domestique. Donc, tout ce qu'on est en train de donner, ce sont des mesures qui sont connues, dont d'une économie complètement désintégrée, et nous sommes en train de colmater le brèche, mais en réalité, nous ne sommes pas en train de résoudre le problème dans la durée. Au-delà de ces mesures d'atténuation, ce sont des mesures de saupoudrage qu'on va mettre, voilà, des aspects monétaires, il faut maîtriser les cadres macroéconomiques, mais c'est un cadre macroéconomique qui repose...
Oui, mais alors, en des termes simples, Jean-Louis, parce que vous êtes économiste également, qu'est-ce que les gouvernements devraient faire pour réellement aider la population à vivre avec cette situation?
Bon, d'abord pour les ménages, parce que vous parlez des ménages. Il faut que le gouvernement prenne des mesures, par exemple, qui touchent directement à l'amélioration des conditions de vie des ménages. Notamment, par exemple, dans le passé, on avait pris des mesures, par exemple,
de
ne plus payer, par exemple, l'énergie et l'électricité
et l'eau.
Et de l'eau. Bon, l'État a besoin de moyens, et ainsi de suite. Mais on doit voir que le coronavirus est corrélé à la propriété des mains, et ainsi de suite. Il y a des quartiers qui n'ont pas d'eau. Il faudrait que vraiment ceux qui ont des dettes, par exemple à la régie des eaux, que les agents de régie des eaux ne passent pas pour aller couper de l'eau, ainsi de suite, tout ça. On peut régler cette question-là à ce niveau-là. Il y a des aspects, par exemple, des boutiques qui ont fermé, des maisons qui ont fermé.
Les bars, les hôtels, les cafés.
Oui, des cafés. Bon, sous d'autres chiffres, c'est l'État qui intervient, il y a des subventions, l'État appuie, vous avez suivi Trump solliciter 850 milliards de dollars pour appuyer et à la fois les ménages et à la fois les entreprises pour que les entreprises ne puissent pas tomber en faillite. Et donc nous n'avons pas ces moyens-là, nous devons voir dans quelle mesure il faut recourir à un appui budgétaire au niveau de la Banque mondiale. Et même du fonds monétaire pour faire face à cette question.
Mais il y a quand même une part allouée dans les budgets, dans d'autres politiques budgétaires, une part allouée pour les impondérables.
Oui, bon, mon cher ami, lorsque vous analysez la structure de nos importations aujourd'hui, il y a quelques années, j'étais conseiller au ministre de l'économie nationale. Très souvent, les importateurs ont des stocks de 3 mois, de 4 mois. Bon, lorsque les stocks flottant, même le stock qui est disponible est évalué à 4 mois, il y a déjà une spéculation qui peut être envisagée si jamais il n'y a pas de mesures coercitives ou des mesures sur le contrôle de prix au niveau du ministère de l'économie nationale et la Banque centrale du Congo. Déjà, il y a la spéculation qui va jouer et qui a déjà commencé à jouer. Le cas le plus flagrant, c'est celui que nous sommes en train de vivre à Lubumbashi avec la hausse incontrôlée et inexplicable.
De pratiquement 50% pour les maïs.
Donc, ce que nous craignons, c'est que comme c'est une économie extravertie, nous sommes dépendants même du sel, nous sommes dépendants même du sucre, et ça pose problème. Donc, toutes les mesures que nous allons prendre aujourd'hui, c'est juste pour juguler la petite crise. Mais en réalité, il faut se projeter. Les grandes nations se sont développées lorsqu'ils étaient affrontés à la grande crise. C'est pourquoi moi j'appelle l'opportunité ici. Le coronavirus devrait, en principe, nous amener à réfléchir, à repenser l'économie nationale pour que nous puissions produire localement et que vous vous souviendrez du projet que dont on avait discuté avec vous autrefois sur le label, les Made In. Donc ce sont des projets qu'il faudrait mettre en sellette. Je pense que le chef de l'État, en parlant de la task force sur le plan économique et social, ce document est sur sa table. Ce sont des questions véritablement qu'il faudrait mettre en exergue. Parce que le choc est tel qu'il est là, il sera ressenti essentiellement au après. Niveau du commerce international, mmh. à travers les exportations des matières premières, du reste des matières brutes, mmh. sans valeur ajoutée. De l'autre côté, les importations des biens capitaux et périssables sur les autres variables de l'économie nationale. Mmh. Donc, si nous voulons vraiment capter la magnitude du choc à chaque période définie dans l'horizon temporel et conclure avec précision que toutes choses restant égales par ailleurs sur l'extinction de la crise, il faut nécessairement coupler les mesures conjoncturelles et surtout sur structurel. Commencer à planifier sur les mesures structurelles.
Merci beaucoup voilà. Jean-Louis. Et Bissangui Lawali, vous êtes économiste et vous avez souhaité intervenir dans cette émission à très bientôt. Maître Olivier, vous êtes à Guadeloupe. Avant de retrouver notre invité Jean-Louis Kayembe, vous avez besoin de placer également un mot. Maître Olivier, vous êtes avec nous?
Je suis avec vous, oui. Monsieur Girard. Bonjour également, bonjour aussi à l'invité.
Oui, quel est votre avis?
Bon, en fait, monsieur Jour, j'ai suivi avec intérêt l'invité. Bon, je peux dire que c'est une réalité théorique que l'invité a essayé de brosser. Mais dans la pratique, si nous regardons très bien, nous trouvons qu'il y a une sorte de différence par rapport à la théorie que les économistes nous fournissent. Puisque on se réfère à l'époque de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, qui nous parlait de son chemin de macroéconomique et ainsi de suite, mais on ne sentait pas sur le retombé dans la vie sociale de la population. Aujourd'hui, c'est un cas, c'est un fléau qui a touché presque le pays. Mais l'inquiétude, c'est que nous allons faire face à une situation sur le panier ménager, c'est-à-dire le retombé sur la vie sociale de la population. Et si nous risquons, si nous ne tenons pas compte de certains critères, si nous regardons au fond, le coronavirus ne détruit pas rapidement les Africains par rapport aux Occidentaux ou autres pays hormis l'Afrique. Mais si nous regardons au fond, nous risquons de mourir très rapidement à propos du faim. Alors, c'est pourquoi j'ai quelques pistes de solutions à pouvoir proposer à l'État, puisque jusqu'à présent, je n'ai pas senti une sorte de capacité de proposition de la part de la Banque mondiale,
la Banque centrale.
De la Banque centrale et puis du gouvernement. Puisque si nous regardons, nous risquons toujours de pénaliser la population du côté de ces retombées. C'est pourquoi j'ai quelques pistes de solutions. Premièrement, c'est que je vais pouvoir demander à l'État de pouvoir créer des entrepôts de stocks de produits de première nécessité, permettant à l'État aussi d'accompagner les opérateurs économiques. Puisque si nous laissons rien que les opérateurs économiques sur terrain, en tout cas, il y a toujours risque de pouvoir augmenter le prix sur le marché et ça va toujours pénaliser la population. De deux, nous voulons aussi apporter aussi à l'État de baisser sensiblement le taux de l'impôt. Puisque si vous avez regardé les opérateurs économiques qui commençaient à se faire de l'axe Boutembou-Goma, parce qu'il y a hausse du prix, il y a hausse de l'impôt, comment s'ils commençaient à s'inquiéter? Comment est-ce qu'ils pouvaient abaisser le prix du transport pendant que l'impôt est tellement supérieur? Il y a toujours un problème. Si l'État ne joue pas une vigilance de pouvoir rabaisser le taux d'impôt, ça va toujours pénaliser la population. Deuxièmement, je demande aussi à l'État de pouvoir suspendre cette histoire de l'UPR. Puisque si nous regardons, vous-même, vous venez de le dire, aux États-Unis, le président Donald Trump a encouragé de pouvoir donner 1 000 $ par ménage. Ça va quand même soulager, mais si nous continuons dans ce temps de crise à pouvoir encore couper cette hyper, en tout cas, ça va aussi jouer un rôle.
Ouais. Merci beaucoup. Alors, vous avez rejoint donc certains auditeurs qui l'ont proposé de rabaisser la fiscalité, reporter l'impôt et de supprimer carrément les retraits de l'IPR. Merci beaucoup. 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969 pour votre intervention en direct.
Parce que chaque citoyen a des droits et des devoirs. Radio Capi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques. Patriotisme, civisme, respect de biens publics, redevabilité des autorités et plus encore, nous en parlons dans votre magazine Droits et citoyenneté. Mieux connaître vos droits pour bien les défendre. mieux connaître vos devoirs ou bien les accomplir. Tous les mardis à partir de 9h15 et 20h30. Tous les jeudis à 13h30.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Merci une fois encore de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs. Monsieur Jean-Louis Kayembe, directeur des opérations à la Banque Centrale. Vous venez de suivre cette longue série des auditeurs sur la question de l'impact de cette pandémie Covid-19 sur l'économie nationale et sur les vécus quotidiens. D'aucuns ont fait des propositions. Comment réagissez-vous, monsieur Jean-Louis?
Je voudrais apprécier à juste titre tous les intervenants qui sont passés, qui du reste ont présenté des arguments très solides et qui sont vraiment défendables, que j'apprécie beaucoup. Donc, ensuite de tout ce qu'ils ont dit, j'approuve d'abord tout ce qui a été dit et je trouve que c'est cohérent et c'est défendable, comme je le disais. Donc, je voudrais tout simplement rappeler ici, peut-être donner aussi quelques informations, que le travail du gouvernement en période de crise, tous les gouvernements, c'est de soutenir l'économie et d'empêcher aux entreprises de faire faillite. Donc, toutes les mesures qui sont prises partout dans le monde par des gouvernements vont dans ce sens-là. D'abord, c'est le rôle du gouvernement de soutenir l'économie et d'empêcher la faillite des entreprises. Et aussi, soulager tant soit peu la situation des ménages qui est impactée par la crise. Et aussi, préserver la stabilité du cadre macroéconomique également, ça a des liens avec ce que je viens de dire autrement, et ça c'est la mission qui est confiée à la Banque Centrale. Donc, je suis en ligne droite et j'approuve tout ce qui a été dit, et aussi pour à titre d'information, à tout ce que, qui a été dit. Recommandations en rapport avec le soutien aux entreprises, le soutien aux ménages, je veux dire ici qu'il y a un groupe de travail, des experts, qui a été mis en place par le gouvernement, et qui doit rendre les rapports, qui a rendu déjà les rapports, et qui s'est penché sur tous ces aspects-là. Comment le gouvernement devait soutenir les entreprises et leur empêcher de déposer les bilans, et comment le gouvernement devrait également soulager la situation qui était déjà dure avant la crise, qui va être amplifiée, accélérée par cette crise. Donc, il y a des décisions qui seront prises dans les 24-48 heures sur ce point-là, sur le gouvernement va se prononcer, parce que comme je l'ai dit, j'ai fait partie de l'équipe interdisciplinaire, interministérielle, des experts qui travaillent, qui réfléchissent sur des pistes de solutions. Et d'ailleurs, pour ce faire, il y a également des contributions de la FEC et de l'Association congolaise des banques qui ont été exploitées dans le cadre de ce travail-là. Donc je veux juste apaiser les uns et les autres qui leur disent que le gouvernement s'attelle à cette tâche et dans les heures qui viennent, il y aura des décisions qui iront dans le sens de soutenir l'activité et d'accorder certaines facilités aux entreprises et également et comment voir comment soulager le ménage. Alors, par rapport à d'autres aspects qui ont été évoqués, je suis tout à fait d'accord que il y a donc, pour faire face à la crise d'abord, c'est, on peut considérer que la crise devrait nous permettre de réfléchir suffisamment sur l'état de notre économie. Donc, la crise entraîne des défis, mais également des opportunités.
Tout à fait.
Mais en tant qu'analyste, ce que je peux dire, ça n'engage que moi, j'ai l'impression que je partage le point de vue de certains autres analystes qui disent, économistes comme moi, qui disent que et nous n'avons pas tiré des leçons de la crise, par exemple, parce que nous sommes passés par des crises. La crise de 2008-2009, la crise financière internationale. Nous avons été frappés. Et nous savions très bien que notre économie est très vulnérable, on l'a dit. Nous dépendons de l'extérieur. Tout ce que nous consommons vient de l'extérieur. Le degré d'ouverture de notre économie et se situe au-delà des 65%. Donc, quand on est exposé, on dépend de l'extérieur, il suffit que, au niveau extérieur, au niveau mondial, qu'il y ait un moindre choc qui vient de l'extérieur, qui touche l'extérieur, que nous soyons affectés. Cela a été le cas en 2008-2009, lors de la crise.
La récession.
La récession, les cours ont plongé et nous avons été frappés de plein fouet. Et donc, les exportations ont baissé et les finances publiques s'est creusée et nous avons connu des financements monétaires inexplicables, incommensurables et puis qui ont entraîné la hausse des prix et les prestations de taux de change. Nous avons dépassé les 50% en termes d'inflation. C'est la même chose, en 2015-2016, nous avons connu également un choc extérieur. Et là également, on a connu des déficits, on a connu des déficits jumeaux, balance des paiements, déficit budgétaire, et qui nous a amené dans une situation baisse de la croissance, donc perte de croissance économique, et également instabilité du cadre macroéconomique. Donc je crois également que cette fois-ci, avec cette crise sanitaire, qui a déjà les mêmes impacts, les mêmes implications, à savoir la baisse le déficit de la balance des paiements, baisse des exportations et également la baisse des recettes et l'augmentation des dépenses, nous allons arriver à une situation où le cadre macroéconomique va bouger. Donc, je suis d'accord avec l'économiste, le monsieur qui est intervenu pour dire, au-delà des mesures conjoncturelles qui ne visent qu'à stabiliser la situation, parce que c'est là-bas des soins, quand il est malade, quelqu'un qui est malade, il fait des fièvres, même s'il a des maladies graves, la première chose, c'est commencer d'abord par soigner la fièvre.
Premier soin.
Et baisser la température, mettre les malades dans un état où, qui peut d'abord se mettre dans un état où, même s'il faut intervenir par d'autres interventions, d'autres examens poussés, qu'on réduise quand même la fièvre. Donc, les mesures conjoncturelles que nous prenons, à savoir des mesures de politique monétaire et de politique budgétaire qui seront prises d'ici là, n'ont comme objectif d'abord de stabiliser l'économie et d'atténuer l'impact. Mmh. Au-delà de ces mesures, je suis d'accord qu'il faut réfléchir
de manière structurelle.
Réduire la dépendance de notre économie vis-à-vis de l'extérieur. Ce n'est pas possible que tout ce que nous consommons vient de l'extérieur. Le niveau d'importation est très élevé. Donc, la facture moyenne d'importation mensuelle dépasse des milliards. Donc, c'est inexplicable. Donc, nous pouvons, si à la bonne foi ou après des situations comme celle-ci, réfléchir sur la diversification de l'économie. On en a beaucoup parlé. Comment diversifier notre économie?
Maintenant, il faut concrétiser. L'heure. Parce que la situation, comme l'a dit Wally, ça crée de l'opportunité. Et c'est une façon pour nous, d'ailleurs, les économies extraverties, de pouvoir repenser. Je crois que là, ça relance encore le débat. Je crois prochainement, on va faire le débat sur toutes ces conférences économiques organisées dans notre pays, des zones, des pôles économiques placés ça et là. Quels sont les résultats aujourd'hui? Nous allons encore faire l'évaluation avec vous, Monsieur Jean-Louis Kayembe, en tant qu'analyste, très prochainement. Mais nous vous gardons en ligne, le temps peut-être d'écouter d'autres auditeurs qui vont placer également leur point de vue par rapport à la situation d'aujourd'hui. Gaston Alonso, vous êtes à Kinshasa. Vous êtes doctorant en économie. Bonjour et bienvenue de la parole aux auditeurs.
Bonjour, monsieur le journaliste. Et bonjour à notre invité, monsieur Jean-Louis, de la Banque Centrale. J'ai suivi avec attention son argumentaire, mais je crois que, effectivement, l'essentiel est déjà dit. On sait que notre économie très vulnérable, nous dépendons des exportations des matières premières, notamment du secteur minier. Et aujourd'hui, la Chine étant frappée, nous ne saurons plus exporter nos cobalt, nos cuivres vers ces pays. Alors, au niveau des institutions, nous avons seulement à déplorer, puisque lui, c'est un acteur actif. Il est au niveau de la Banque centrale, mais nous ne voyons pas des mesures concrètes qui devraient permettre à ce que le pays puisse sortir de cette crise. Je venais de lire tantôt les instructions que la Banque centrale a publiées en termes de politique monétaire. Tout ça, ça ne montre pas comment nous devons résorber et nous devons être résilients face à la crise. Alors, de manière pratique, il y a des mécanismes que la Banque centrale peut mettre en place en utilisant des instruments du genre on devait financer des opérateurs économiques. Aujourd'hui, nous dépendons, c'est qu'on on importe de l'extérieur. C'est notamment les poissons. Nous avons du poisson ici. J'ai vu les FPI financer, par exemple, un opérateur économique qui a relancé les barges pour les fleuves. On peut aussi acheter des bateaux pêche. Puis c'est quand on dit diversifier l'économie, ça devient un peu comme une chanson, et nous ne savons plus comment les autorités au niveau national prennent les choses. Nous avions suivi récemment le ministre de l'économie qui disait, lui n'a pas de levier pour agir, il doit dépendre des ministères sectoriels. Or, de manière sectorielle, le ministère de l'industrie n'est pas opérationnel. Donc ce que nous on souhaite, de sorte qu'on puisse cibler là où nous avons déjà des potentiels, là où nous avons des possibilités d'agir à l'interne.
Oui, mais Gaston, en termes clairs, quelles sont les mesures que vous proposez de manière conjoncturelle pour finalement soutenir les ménages?
Voilà, pour soutenir les ménages, en fait, il y a des politiques budgétaires. Nous avons vu déjà, il n'y a pas à inventer la roue. La France a déjà fait le modèle. Par exemple, je prends
l'électricité, l'eau, on pouvait subventionner la population de manière à ce que la population soit exemptée, puisse bénéficier des exemptions au cours de cette période. Le gouvernement peut-être ne saura peut-être pas prendre en charge les loyers comme ça a été fait en France, mais le gouvernement peut mettre en place des mécanismes, des cantines, pour permettre à certaines populations d'accéder, ne fût-ce puisque là, Kinshasa est confiné, mais on peut prendre en place mettre en place des cantines pour que la population puisse s'approvisionner, ne fût-ce qu'en maïs.
Qu'ils aillent manger ou qu'ils aillent s'approvisionner.
Alors, d'une manière encore pratique, il y a les poissons. Les poissons, nous pouvons relancer l'agriculture, la pêche. Nous avons cette possibilité, puisque d'autres provinces n'étant pas affectées, on peut donc redynamiser l'agriculture et la pêche de manière à ce que nous puissions déjà assurer la résilience. Parce que si on croise les bras, dans 3 mois, la situation deviendra
intenable
et la population ne saura pas s'en sortir.
Ça sera pire.
Ça ne sert à rien de dire diversifier l'économie. Oui.
Notre invité l'a dit, on va repenser notre économie après, mais pour le moment, c'est vrai qu'il y a des mesures conjoncturelles qu'il faut pour soutenir les ménages et soutenir les entreprises.
Dans certains coins de la République, il y a des opérateurs qui peuvent assurer la production, mais ils ne savent pas évacuer.
Tout à fait.
Donc on peut mettre en place, il y a des hélicoptères de la CENI là, on peut les mettre en place pour aller évacuer certaines productions et venir assurer... l'acheminement au niveau des centres de consommation.
Merci
parce
beaucoup.
Si on ne fait rien,
ça sera pire après. Merci beaucoup, Gaston Lonzo. Je rappelle que vous êtes doctorant en économie et vous avez accepté d'intervenir dans cette émission. Professeur Vautou également, vous êtes en ligne. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes analyste et depuis un certain temps, vous avez publié quand même beaucoup d'articles sur la situation actuelle. Mais alors, aujourd'hui, l'impact de cette pandémie sur l'économie nationale, que faire pour soutenir les entreprises et soutenir les ménages?
Bon, je crois que, comme a dit l'un de mes prédécesseurs, on peut déplorer la situation. Il y a des mesures qui ont été prises, mais c'est une opportunité. Il faut voir les choses positivement. Et tout ça, c'est une question d'option politique. Je crois qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été expérimentées par le passé, à bien ou à mal, mais le problème dans notre pays, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau régime qui arrive, on a l'impression de réinventer la roue. Vous savez, dans ce pays, il y a eu une expérience par le passé. Je vous rappelle, par exemple, une des grandes décisions économique a été prise par le passé, c'est la zaïrianisation. Ça n'a pas marché, peut-être qu'on s'était pas bien compris, mais l'idée qu'il y a derrière était louable. C'était qu'il fallait que l'économie soit tenue par des Congolais. Aujourd'hui, non seulement que notre économie est extravertie, nous dépendons de ce que tout est importé, mais ce qui importe, c'est qu'ils mettent des étrangers, excusez-moi de le dire comme ça. Mais la zéro, c'était de donner l'opportunité aux Congolais même de tenir l'économie. Aujourd'hui, l'économie congolaise est tenue par les étrangers. Et ça peut avoir des impacts que vous ne pouvez pas vous imaginer. Mais ça a été dit depuis toujours, l'agriculture, priorité des priorités. Depuis Mobutu, même avant Mobutu avec la colonie, le Congo était un des grands exportateurs de l'huile de palme, d'arachide, de tout ça. Et tout ça, ces palmeraies existent, mais nous les avons oubliés, on s'est déversé vers le minéraire. Mais il est temps aujourd'hui qu'on puisse y réfléchir, qu'on puisse rentrer à l'agriculture, qui est une économie qui est renouvelable par rapport au minéraire. Et ça, ça peut faire notre force. Et quelqu'un a dit ici, il faut apprendre. Ça, c'est une option politique parce que lorsque, par exemple, vous parlez de l'authenticité, c'est ça aussi. Il faut apprendre aux Congolais à consommer Congolais. Aujourd'hui, Kinshasa, nous consommons les Saint-Charles. Et il n'y a aucun effort. Moi, j'ai des enfants à la maison. Quand j'envoie la bonne à Kingaba acheter des poissons de fleuve, ils n'en consomment pas parce que nous ne les avons pas cultivés dans ça. On a mis dans la tête de la jeune génération que le poisson, c'est qui est congelé, qui vient de l'extérieur. Il faut un travail psychologique, il faut un travail de goût.
Voilà, merci beaucoup. Voilà, je crois que tout ça, on va verser ça dans les comptes des réflexions qui seront menées dans les prochains jours. Merci beaucoup, professeur Voto. Nous revenons à vous, Jean-Louis Kayembe, directeur des opérations à la Banque Centrale, avec les mesures publiées par l'institution financière, la première institution financière de la RDC. Et nous avons vu, vous avez dit qu'il y a un travail qui est fait par cette task force économique, placée par l'autorité, afin de trouver des solutions. Mais en termes clairs, vous êtes analyste, est-ce que on peut déjà penser, réfléchir aux mesures prioritaires. Donc, je pense aux mesures conjoncturelles pour en fait juguler cette crise et en fait soutenir les ménages. Quelles peuvent être des mesures prioritaires?
Non, il y a certaines de mesures. Merci beaucoup, Monsieur J.R. Laissez-moi d'abord une seconde pour que je réagisse par rapport à l'intervenant tout à l'heure, Gaston. Il a parlé de certaines facilités qu'on peut accorder aux ménages, aux entreprises. Dans les mesures, s'il regarde bien, les mesures prises par la Banque centrale, nous avons parlé de la mise en place d'un guichet spécial de refinancement des maturités 3 à 24 mois et afin d'augmenter les ressources, permettre aux banques de financer l'économie. Donc, nous avons mettre ensemble avec le ministère de l'Agriculture, le ministère des Finances et la Banque centrale pour voir comment accorder du crédit aux micro, petites et moyennes entreprises via, bien sûr, certaines institutions bancaires pour relancer leurs activités. Donc, il est prévu également des lignes de crédit qui seront accordées aux entreprises. Et aussi, nous avons dit que on va également partager la trésorerie des entreprises du fait qu'il y en a qui vont fermer, très soulager leur trésorerie. Donc, on va essayer de postposer certaines échéances pour le remboursement de leurs crédits et ne pas les pénaliser suite au défaut de remboursement des crédits. Donc, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, mais ce qui nous manque, c'est quoi, en fait? Ce qui nous manque, c'est comme dans d'autres pays, on parlait tout à l'heure des mécanismes de subvention de la population, je suis d'accord. Par exemple, j'ai été ici à l'île Maurice, un pays d'Afrique australe, je ne veux pas faire la publicité des pays ici, où ils ont des stocks stratégiques, des produits de première nécessité, les maïs, par exemple, et les riz. Donc, ils ont des stocks qui peuvent assurer, en fait, le bon fonctionnement de l'économie
en temps de crise.
Durer, par exemple, au-delà qui dépasse de 12 mois. C'est-à-dire, en cas de catastrophe, si les gens ne produisent pas, le gouvernement peut distribuer ces stocks-là de maïs, de riz à la population sans importer, sans recourir à l'extérieur. Nous devons donc repenser notre économie pour voir, par exemple, pour aller dans ce sens-là. Il y a quelques temps, on parlait de stocks stratégiques.
La réserve stratégique. Qui n'existe que de nom jusqu'au jour.
Si la pensée, c'est celle-là, que nous devrions disposer de réserves stratégiques, les produits de première nécessité, l'État devrait avoir des réserves, des cas comme ça, des catastrophes, des crises, où on n'importe pas, parce que toutes les barrières sont fermées, nous recourons à cette réserve stratégique-là. Nous n'en avons pas. Donc, pour répondre à votre question, je ne veux pas anticiper sur ce qui doit être dit. Donc, les mesures que le gouvernement va, d'ici quelques heures, va rendre publiques, dans le souci de soutenir les entreprises, vont aller dans le sens de se donner certaines facilités, notamment de postposer les paiements de certaines taxes. Comme on l'a dit, on n'invente pas la roue. On va, je crois, aller dans le sens d'accorder certaines facilités au niveau des taxes et impôts. Au niveau des ménages également, on peut aller comment voir délester certaines choses. Donc, je ne veux pas donner la quintessence.
Merci beaucoup.
Du travail qui a été fait, mais le gouvernement est conscient, il y a des experts qui ont travaillé, nous savons ce qui a été fait ailleurs, et le gouvernement soucieux de l'impact sur la population de cette crise.
Il pourrait s'y pencher. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Louis Kayembe, directeur des opérations à la Banque Centrale. Merci d'avoir accepté notre invitation. À très bientôt. Voilà, c'est par ici que nous mettons fin à cette émission. On prend rendez-vous avec vous demain pour un autre numéro de Parole aux auditeurs. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix. Thank you.